Bonjour à tous et bienvenue sur CHUO 89.fm, 7h passées de 10 minutes. Vous nous écoutez tout de suite, c'est le début des missions du matin. Bonjour Marianne.
Alors bonjour JB, ça va bien ce matin?
Ça va très bien, et toi?
Ça va bien, merci. En forme pour un autre mercredi d'émission du matin.
Oui, mon dernier mercredi, malheureusement.
Malheureusement, tu vas nous quitter. Ça va être la fin de la fameuse French Connection ici, aux missions du matin.
Oui, mais bon, n'en parlons pas, c'est pas grave. Le but, c'est de se concentrer sur cette émission, de faire une très belle émission. Cette semaine, on vous parlera de gastronomie.
C'est ça. Donc, j'espère que vous avez... que vous avez l'eau à la bouche, que vous allez prendre votre petit déjeuner bientôt.
Voilà, alors si vous allez prendre votre petit déjeuner ou si vous avez déjà pris votre petit déjeuner, sachez que nous ne vous laisserons pas en reste sur une mauvaise note et vous aurez, vous apprendrez de nombreuses choses sur la gastronomie mondiale.
Et la gastronomie historique aussi.
Et également la gastronomie historique. Alors on parlera de beaucoup de sujets différents, donc... je parlerai entre autres de comment fabriquer un hamburger qui paraisse joli.
Ah.
Je parlerai de la cuisine méditerranéenne. Tu nous feras, Marianne,
un bref exposé sur la cuisine de l'Ancien Régime, l'évolution de la cuisine à l'Ancien Régime et une petite comparaison avec les habitudes alimentaires des Européens au Moyen-Âge et puis aujourd'hui aussi, donc par rapport à la cuisine d'Ancien Régime.
Voilà, alors tout ça c'est pour la suite de l'émission, j'espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche et on va commencer tout de suite par la météo et puis quelques actualités. Alors météo, actuellement il fait 14 degrés à Ottawa, partiellement nuageux. Dans la journée, ce sera ensoleillé avec quelques petits nuages, un maximum de 28 degrés. Jeudi, 24 degrés maximum, temps qui se dégrade, nuageux avec 60% de probabilité d'averse. Vendredi, alternance de soleil et de nuages avec 40% de probabilité d'averse, maximum de 25 degrés. Samedi, pluie, maximum de 23 degrés, 60% de probabilité. Et dimanche, retour du beau temps, maximum 27 degrés, temps ensoleillé, pardon. Lundi, temps ensoleillé, maximum 30 degrés. Et mardi, on pourrait avoir le retour de la pluie avec un maximum de 28 degrés et 60% de probabilité d'averse. Voilà donc pour la météo. Et passons donc à quelques actualités cette semaine, actualités orientées gastronomie donc.
Oui, quelques actualités en rapport avec notre thématique de la semaine. Nous venant de différents journaux. La première nouvelle vient de La Presse, mais j'ai aussi lu un court reportage sur le même sujet le mois passé dans le Courrier international. C'était rapporté par le journal allemand Der Spiegel. C'est au sujet de la gastronomie diplomatique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en marge des sommets diplomatiques et politiques comme le G8 ou le G20, il y a parfois des sommets très importants entre les hauts dirigeants gastronomiques de la planète. J'ai nommé les chefs cuisiniers, des chefs d'État et des chefs des gouvernements des pays les plus puissants du monde. Alors, c'est une organisation de 25 chefs cuisiniers qui travaillent pour les grands hommes et les grandes femmes politiques de ce monde et qui se nomme le Club des chefs des chefs. Et ces représentants des traditions gastronomiques de leur pays sont convaincus qu'ils peuvent, par l'entremise des repas officiels, faire leur part pour améliorer les relations diplomatiques entre leurs pays. En effet, comme un ventre bien rempli est souvent plus ouvert aux discussions et aux règlements de conflit, ces chefs assurent la bonne ambiance lors des grands banquets et des repas entre les différents responsables politiques de ce monde. Et ces chefs aux cuisiniers prennent donc très, très, très au sérieux le rôle qu'ils occupent dans les coulisses des grands sommets diplomatiques. Alors, créé en 1977, le Club des chefs est une initiative du chef Gilles Bragard. Le président du club aujourd'hui est Christian Garcia, c'est le chef du prince Albert de Monaco. Et puis, on compte également parmi les rangs du Club des chefs, on compte Bernard Vosson, le chef du président de la République française, Christetta Comerford, le chef du président des États-Unis, Ulrich Kers, le chef du chancelier fédéral d'Allemagne, et Vakhtang Abouchidi, le chef du Kremlin. Ça, c'est juste quelques noms. C'est ceux qui ont participé à l'entrevue pour le journal en question.
25 membres, tu disais, en tout.
Ouais, 25 membres en tout.
Donc, 25 États différents qui sont représentés à cette réunion des chefs des chefs.
C'est ça. Donc, 25 membres qui sont représentés dans la gastronomie diplomatique mondiale. Alors, ces chefs des chefs tiennent des réunions annuelles un peu partout dans le monde. Ils en ont déjà tenu à Pékin, au Caire et à Moscou. Et puis là, ils vont vraiment, ils peuvent aussi échanger des trucs ou des façons d'apprêter les plats pour plaire au goût de leurs dirigeants respectifs. Par exemple, dire « Ah, moi, mon chef aime sa nourriture de telle ou telle façon », des choses comme ça. Puis, ils peuvent également mettre en place des initiatives qui sont propices au rapprochement entre les peuples. Alors, un exemple de cette initiative de diplomatie culinaire assez spéciale, c'est le chef Shalom Kadosh, c'est le chef de la cuisine du gouvernement israélien, qui a organisé en 2011 un repas de charité dans les cuisines de l'État israélien. Et ce qui avait de spécial, c'est que les cuisines étaient occupées à 50% dans ce cas-là, pour ce repas-là, par des chefs israéliens et 50% des chefs palestiniens. Alors, c'était une première. Et je pense que c'est un bel exemple de rapprochement des peuples par la nourriture, par la bonne nourriture, par la gastronomie.
Donc, ces chefs ont donc vraiment une influence sur la diplomatie locale, en tout cas, au moins.
C'est ce qu'on nous laisse croire. Alors, je sais qu'on aime beaucoup les théories du complot avec des organisations secrètes qui œuvrent en coulisses. Celle-là, je n'appellerais pas ça une théorie du complot, mais je trouve que c'est vraiment chouette leur façon de vouloir améliorer le monde par l'assiette.
Alors, je ne sais pas si ce que je vais dire, c'est très français ou pas, mais n'empêche qu'une réunion qui se termine par un bon repas sera toujours meilleure qu'une réunion qui se termine pas par un repas ou par un mauvais repas.
C'est très français, mais c'est exactement la philosophie du club du chef des chefs, c'est de créer une bonne ambiance, un bon repas qui est propice à la bonne humeur et à la discussion. Et puis, je rappelle en terminant que pour ces chefs-là, ben leur travail dans la vie de tous les jours, ça reste quand même un exercice délicat, puisque dans les grands rassemblements internationaux, les chefs cuisiniers doivent non seulement préparer un bon repas pour les dirigeants, mais doivent également tenir compte de toutes les restrictions alimentaires, culturelles et religieuses des différents pays participants lorsqu'ils confectionnent leurs plats.
Alors, merci Marianne. Alors, à moi de te raconter une petite actualité. Alors, ça provient du journal La Presse, comme pas mal de mes sources. Alors, en fait, les amandes. Tu dois connaître les amandes.
Oui, j'aime bien les amandes.
Voilà. Alors, on entend pas mal parler, dire que les amandes, c'est assez calorique. Il faut faire attention. C'est pas vraiment un fruit, mais enfin si c'est un fruit d'ailleurs. Mais enfin oui, c'est quand même calorique et qu'il faut faire attention, etc. Alors en fait, ça pourrait être 20% moins calorique que ce qu'on pensait. Alors pourquoi ? En fait, il faut voir la façon dont sont calculées les calories en fait normalement. Pour le faire, on prend une nourriture, on prend un ingrédient et on va le décortiquer en fait en quantité de protéines, quantité de glucides, quantité de lipides. On va donner un certain coefficient calorique à chacun. Donc par exemple, si on dit que pour 1 gramme de glucides, c'est, disons 20 calories, et l'amande, elle a 10 grammes de glucides, et bah, y aura 200 calories dans l'amande. Bon alors évidemment, tous ces chiffres sont complètement faux, hein, vous le comprendrez bien. Mais l'idée, c'est à peu près ça. Alors en fait, y a des nutritionnistes des scientifiques qui ont fait une approche différente pour mesurer la quantité de calories. En fait, ils ont dit oui, mais le problème c'est que dans le corps humain, toutes les calories issues des ingrédients ne sont pas forcément ingurgitées. Donc ils ont fait un calcul différent et ils se sont rendu compte que en fait à peu près 20% de ces calories ne seraient pas ingurgitées par le corps humain. Donc voilà, ils ont fait ça pour les amandes et apparemment leur résultat pourrait être applicable à d'autres ingrédients.
Alors l'amande moins calorique qu'on pensait.
Exactement. Donc si vous voulez manger des amandes, sachez que la quantité de calories qui est marquée sur le paquet est peut-être pas exactement la même que celle que vous allez manger réellement.
Mais c'est bien là, quand même, je veux dire, rien de mieux que des amandes, par exemple, dans un mélange du randonneur, si on va faire de l'exercice, des choses comme ça. Alors, merci JB, on se privera pas la prochaine fois.
Voilà, alors tu parlais justement de randonnée et de promenade. Alors, il y a un article qui est paru dans Le Monde et qui t'explique comment choisir ta gourde idéale. Alors les gourdes, il faut, enfin, c'est vrai qu'il y en a quand même, il y a pas mal de gens qui ont des gourdes ici au Canada.
Tu veux
Si,
dire juste une bouteille d'eau qu'on peut apporter avec soi
oui, une
ou une vraie
gourde.
gourde comme Astérix?
Non, une vraie gourde comme, enfin, entre les deux quoi. Et alors en fait, en France, j'ai pas l'impression qu'il y a autant de gourdes que ça, et beaucoup de gens utilisent en fait des bouteilles en plastique qu'ils achètent par exemple le matin ou qui prennent le matin chez eux et puis qui jettent le soir. Et alors ça, bah évidemment, comme tu dois pouvoir t'en rendre compte, ça fait beaucoup de déchets. Et
C'est très mauvais pour l'environnement, mais l'eau aussi est de moins bonne qualité parce qu'il peut y avoir du plastique dans l'eau aussi.
voilà, donc plus de deux bonnes raisons pour ne pas utiliser des bouteilles de plastique. Et alors l'auteur du blog fait une petite revue de toutes les différentes gourdes que tu peux avoir. Alors il y a plusieurs types. Alors on connaît évidemment les gourdes en plastique, plus ou moins. Alors ça dépend, t'as des plastiques plus ou moins transparents, etc. Alors il faut voir qu'en fait actuellement on est capable de faire des plastiques pour les gourdes qui, comme tu disais, ne vont rien, enfin ne vont jeter aucun polluant dans l'eau et donc vont garder l'eau de très bonne qualité. Donc c'est pas parce qu'on prend une gourde en plastique qu'on va faire un compromis en termes de poids par exemple par rapport à un autre type de matériau pour la gourde, et tout en abîmant la qualité de l'eau. En fait, on peut maintenant avoir des gourdes en plastique avec une bonne qualité de l'eau. Alors il y a aussi des gourdes en aluminium et puis des gourdes même en verre.
En aluminium,
Oui, c'est...
est-ce que c'est pas, est-ce que ça prend la chaleur ou?
Non, c'est en fait des gourdes métalliques.
Ouais.
Tu peux les avoir soit en un acier inoxydable, donc c'est les gourdes simples, soit si tu veux qu'elles soient plus légères, tu la prends en aluminium.
Ok.
C'est plus pour une question de poids en fait.
Ok.
Et alors quand je dis aluminium, oui, ça doit être un alliage d'aluminium, hein. Et également en verre en fait. Donc ça, pour le coup, ça fait des gourdes qui sont plus lourdes, mais pour le coup, là, on est sûr d'avoir quelque chose de vraiment, enfin, neutre par rapport à l'eau, quoi. Voilà. Puis apparemment, qui sont quand même assez renforcés. Enfin, c'est un verre qui est quand même renforcé, et donc vous n'avez pas de risque de casser votre gourde si, par exemple, vous la mettez dans votre sac à dos et puis que vous vous penchez le long d'un mur, ça va pas casser la gourde normalement.
Est-ce qu'il y a des grosses différences de prix entre les différents types de gourdes?
Il parle absolument pas de prix. Enfin, à part à la fin où il donne les prix, enfin juste un ordre de grandeur des prix, mais c'est de 10 à 30 $ à peu près. Mais sans dire précisément en fait le prix de chacune des gourdes, ça doit dépendre aussi des marques, des revendeurs, etc. Alors également une petite mention toute particulière à la gourde en pot. C'est des espèces de gourdes un peu rétro. Alors
À
évidemment.
l'ancienne, là, comme on avait quand on faisait du scoutisme, des choses comme ça.
Exactement, ouais. C'est les gourdes telles qu'on peut s'imaginer ce qu'avaient les gens au Moyen Âge, par exemple.
Ou dans les années 50.
Oui, ou les hippies dans les années 50, ouais. Voilà, donc ça existe grâce à la marque basque espagnole qui s'appelle Laken et qui en commercialise des gourdes en pot. Alors ensuite, la deuxième question, quand tu achètes une gourde, c'est savoir dans quel matériau quel matériau tu vas utiliser. La deuxième question, c'est quel type de bouchon tu vas prendre. Parce que là, il y a aussi différentes choses. Alors là, il faut un peu cerner ses besoins. Si on a besoin d'une gourde plus pour faire du sport, on va prendre une gourde type cycliste, par exemple, où on a une espèce de bouchon rapide où il suffit de tirer avec les dents et pour pouvoir boire. Et donc ça, c'est un peu la gourde pour faire du sport. Pas forcément très très bien adapté ou très très pratique quand on l'utilise plus pour aller au travail par exemple, parce que s'il n'y a pas de bouchon, ça peut salir l'embout. Enfin l'embout, on va le mettre directement à la bouche après, donc c'est pas forcément très bien. On peut pas en prêter à des amis, enfin on peut pas donner un peu d'eau à des amis. Alors donc l'autre type de gourde, c'est tout simplement avec un bouchon normal, un peu comme une bouteille. Donc ça, c'est plus pour les sédentaires, dirons-nous. Et puis enfin, il y a des gourdes où les bouchons sont adaptés aux enfants. Et où, par exemple, alors j'ai pas vu comment ça marche, mais apparemment il y a des gourdes où quand tu la fais tomber, en fait le bouchon se referme automatiquement et ça évite que toute l'eau sorte, enfin tombe de la gourde. Et donc pour les enfants, bah, c'est plutôt pratique. Parce que si tu donnes la gourde à ton enfant, bah s'il la fait tomber, c'est pas grave, tu vas pas te retrouver en manque d'eau pour le reste de ta balade, par exemple. Voilà, puis il fait également état de quelques autres astuces un peu bizarres, par exemple des gourdes avec le bouchon qui, au lieu de s'ouvrir vers le haut, va se plier sur le côté et va permettre une façon différente de boire, enfin quelques cas un petit peu particuliers. Voilà, et puis dernière chose dont il relate grâce aux gourdes, c'est que en fait t'as un certain nombre plus ou moins d'associations ou de groupes qui permettent de en fait répertorier les points d'eau et donc d'aller pouvoir se recharger en eau beaucoup plus facilement et puis de façon beaucoup moins chère que si tu devais aller dans un magasin acheter des petites bouteilles d'eau à chaque fois. Et apparemment il y a des applications pour téléphone intelligent où tu te géolocalises et ils te donnent le point d'eau le plus proche.
Ah, mais c'est pratique, ça.
Ouais, c'est assez pratique si tu te retrouves en manque d'eau dans une ville quelque part ou même hors des villes.
Mais j'ai remarqué aussi en Europe, souvent, il y a des jolies fontaines, tout ça, partout dans les rues où on peut remplir les bouteilles d'eau, ce qu'on n'a pas ici, malheureusement.
Ouais, alors faut faire attention parce qu'il y a des fontaines qui sont non potables,
Non, non, mais
mais...
c'est clairement des fontaines potables pour les touristes, là, mais oui, pas boire dans les fontaines non potables.
Voilà. Alors, 7h26 minutes, on va faire une petite pause musicale. On va écouter tout de suite Sarah Bourdon. C'est tiré de son album qui s'appelle La Longue Trail et la chanson s'appelle Mon cœur pour te garder. Ce sera tout de suite après une petite pause de publicité.
Pour de la musique excitante et organique, gardez vos oreilles occupées avec CHUO 89.1 FM à Ottawa.
Suppose que nous n'ayons plus rien. Suppose que l'ouragan ou le typhon est emporté loin notre maison. Oh, il n'y aurait pas de quoi pleurer, avoir le lit emporté. Les souvenirs n'ont que des reflets sur un tapis de fougères. Même si je n'ai plus de voix pour t'appeler, j'aurai toujours mes mains pour te chercher. Et si je n'ai plus
Voilà, 7h passées de 32 minutes, vous êtes de retour sur CHUO 89.fm, vous écoutez l'émission du matin. On continue de parler d'actualité gastronomique.
Oui, alors tantôt je vous parlais du club du chef des chefs. Alors c'est chef de ces chefs des rois et des hommes et des femmes politiques de ce monde qui veulent tenter de favoriser l'harmonie entre les peuples par leur cuisine. Et bien voici un autre exemple de gastronomie diplomatique. C'est le restaurant Conflict Kitchen de Pittsburgh. Alors c'est une nouvelle qui encore une fois est rapportée par la presse et par le Courrier international. Alors, le Conflict Kitchen, eh bien, ou Cuisine des conflits, si on veut, c'est un restaurant, ou plus précisément, un comptoir de nourriture emportée situé à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et c'est un restaurant qui s'est donné une mission plutôt spéciale. Il veut faire découvrir aux Américains, par l'entremise de la nourriture, la culture des pays avec lesquels les États-Unis sont en conflit. Alors, c'est une initiative du propriétaire John Rubin, qui veut que ses compatriotes soient davantage informés au sujet des différentes cultures avec lesquelles leur pays entretient des conflits, afin de rapprocher les gens et de favoriser le dialogue entre les peuples. Alors, la nourriture, pour lui, ben, c'est une façon d'éveiller leur curiosité et de leur présenter ces cultures. Le Conflict Kitchen va adopter différentes thématiques en vertu desquelles elle modifie son décor, son menu et même ses emballages. Alors, l'emballage, par exemple, est très spécial parce que c'est sur l'emballage qu'elle va faire imprimer toutes sortes d'informations sur le pays en question. Donc, c'est vraiment son principal véhicule pour transmettre l'information sur le pays et la culture en question. Alors, en ce moment, eh bien, c'est la cuisine cubaine qui est à l'honneur, mais par le passé, ils ont également servi des plats afghans, des plats iraniens et des plats vénézuéliens. Et le prochain pays qui sera à l'honneur au Conflict Kitchen, ce sera la Corée du Nord. Et pour préparer ces plats-là, ben le chef en question fait beaucoup de recherches et parfois même sur le terrain. Donc, il s'est rendu à Cuba avec des chefs là-bas, avec des familles là-bas aussi, pour apprendre les recettes et préparer leur menu. John Rubin, qui est le propriétaire du Conflict Kitchen, a également organisé un banquet qui réunissait par vidéoconférence des Iraniens de Téhéran et des Américains de Pittsburgh. Donc, on peut vraiment voir que, encore une fois, la gastronomie peut être synonyme de relations diplomatiques, de rapprochement entre les peuples. Et puis, je trouve que c'est une vraiment belle initiative.
Bah oui, très, 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 très belle chose. Alors, ça se situe où déjà?
À Pittsburgh.
Donc, pas très, très loin d'ici, en fait.
Non, pas très loin d'ici. Donc, si jamais vous êtes de passage à Pittsburgh, je pense que c'est peut-être un endroit qui pourrait mériter qu'on s'arrête quelques instants.
Autre information?
Oui, ça, c'est une nouvelle un peu moins bonne qui nous est rapportée par Claudette Sanson du journal Le Soleil de Québec. La journaliste nous rapporte que le cornichon québécois est en crise. Alors, le cornichon québécois serait plus ou moins en voie de disparition. Il ne reste plus aujourd'hui que 9 fermes de cornichons au Québec. Il y en avait 64 en l'an 2000. Et la mondialisation et la multiplication des grandes surfaces de l'alimentation, c'est vraiment ça qui pousserait qui achèverait un peu les fermes qui seraient devenues les victimes d'une féroce compétition internationale, notamment en provenance de l'Inde. Alors, affaire à suivre concernant cet aliment, autrefois typique de l'alimentation québécoise, le bon vieux pickle en conserve maison, qui est en train de disparaître.
Alors, il serait remplacé par quoi? Par les autres gros cornichons, type cornichons de McDonald's?
C'est juste, entre autres, les fermiers québécois de cornichons auraient de la misère à vendre leurs cornichons aux surfaces d'alimentation ou aux fabricants de produits qui utilisent des cornichons qui vont préférer notamment des cornichons venant des États-Unis ou de l'Inde ou des choses comme
D'accord.
ça. Donc, les gens vont quand même manger des cornichons, mais ce ne sera
c'est
plus
au, c'est
des
au détriment
cornichons,
des cornichons
québécois.
Voilà, c'est les cornichons américains ou indiens qui vont remplacer... les cornichons québécois sur le marché, en tout cas.
C'est ça. Puis Claudette Sanson prenait vraiment la peine dans son article de nous détailler les différences entre les différents types de cornichons. Personnellement, comme j'en mange pas beaucoup, j'ai pas retenu quelles étaient exactement ces différences. Mais apparemment, il y a des différences aussi dans le goût et la forme.
Alors, on va parler pendant toute la matinée de gastronomie. Alors, quand on parle de gastronomie, oui, on pense évidemment à nourriture, tout ce qu'on a un peu relayé, puis on pense au restaurant, comme tu nous as parlé juste précédemment de ce Conflict Kitchen à Pittsburgh. Eh bien, maintenant, il y a des applications pour téléphone intelligent qui te permettent de voir en fait des critiques sur les différents restaurants quand tu es en train de te promener comme ça dans la rue de ta ville et que tu cherches un restaurant. Et avec des avis de consommateurs en fait qui viennent dans les restaurants puis qui prennent des photos des plats qui leur sont servis et comme ça permet aux autres personnes de voir réellement ce qu'ils peuvent manger.
Alors, une application pour les foodies, en somme.
Exactement. Alors en fait, une application ils appellent ça des food reporters en fait, des reporters de la nourriture, qui en fait vont profiter du fait qu'ils sont totalement anonymes, qu'ils sont très nombreux et qu'ils peuvent aller dans les restaurants comme ça sans, alors que contrairement aux véritables guides culinaires qui eux choisissent un certain nombre de restaurants, ne vont pas dans tous les restaurants, peuvent être beaucoup plus critiques. Et surtout leur guide est payant. Alors, c'est quelque chose qui paraît très simple. En fait, si vous êtes vous-même food reporter, il suffit quand vous êtes dans un restaurant, donc quelle que soit l'occasion, au moment où on vous sert le plat, juste avant de le commencer, vous prenez une petite photo puis vous la postez je vais y arriver, sur l'application et ça fait que tous les utilisateurs pourront la voir. Alors, c'est un quelque chose qui marche très très bien puisque aux heures des repas, donc c'est une application, alors là c'est un article qui provient d'un journal québécois mais qui parle d'une application qui est en France, donc c'est un peu bizarre. Mais je pense, enfin ça doit exister peut-être de ce côté-ci aussi de l'Atlantique. Et alors en fait aux heures de repas, il y a une énorme augmentation du nombre de photos envoyées, évidemment, et on peut en avoir à peu près toutes les 2 à 3 secondes. De nouvelles photos. Donc ça fait quand même beaucoup de photos, donc beaucoup de restaurants qui sont visités.
Je pense que ça peut donner faim très très vite aussi si on utilise l'application en question.
Alors oui, évidemment, faut pas juste rester chez soi et se dire tiens, je vais regarder les photos qui nous sont postées et en profiter pour aller au restaurant à chaque fois. Alors en fait, ça paraît comme ça bien simple, à peu près pas. Depuis le lancement de l'application, il y a plus de 100 000 personnes qui se sont connectées dessus pour voir quels sont les meilleurs restaurants. Alors, dit comme ça, oui, c'est un progrès, c'est bien. Le seul problème, c'est que un critique culinaire, c'est pas tout à fait pareil qu'un critique amateur. Entre autres, les gens, alors c'est critiqué beaucoup par la restauration elle-même, puisque bon, on le comprend, les chefs qui font leur repas ont pas forcément très envie que on critique en direct ce qu'ils sont en train de faire. Forcément, ça fait qu'il y a très très peu, enfin ça fait également pour eux qu'il y a très très, enfin très très peu de contact direct entre les cuisiniers du restaurant et les consommateurs, puisqu'en fait avant, si ton repas, enfin si ton plat te plaisait pas, etc. Tu pouvais le dire aux gens, enfin directement à la cuisine, et puis comme ça le cuisinier pouvait avoir un retour sur sa nourriture. Là, en fait, la personne va simplement poster la photo sur Internet, mettre un petit commentaire dessous, et le cuisinier sera jamais au courant que son restaurant vient de perdre 200 clients parce que y a un consommateur pas content qui s'est plaint.
Mais de aussi avoir des côtés positifs, des gens qui disent, regardez ce plat, ça a l'air délicieux, c'est très bon, tout ça. Donc, il doit quand même avoir, ça doit quand même mousser l'intérêt pour les restaurants aussi.
Alors, il y a ce côté positif, mais apparemment pas tant que ça, parce que ça fait pas non plus que les gens vont au restaurant alors qu'ils prévoyaient pas d'y aller. En fait, les gens vont pas beaucoup plus au restaurant parce qu'il y a l'application. C'est juste que du coup, ils vont choisir leur restaurant par rapport à des critères en fait amateurs et non plus par rapport à des critères type professionnel qu'on peut trouver dans des guides de restauration. Et alors évidemment, ça concerne pas tous les restaurants, mais on pense en particulier aux bons restaurants, parce que en fait, un guide de restauration va pas avoir les mêmes critères. Lui, il va se baser principalement sur la qualité de la nourriture, mais une qualité plutôt objective, c'est-à-dire qu'il fait quand même pas mal de restaurants, c'est son métier, donc il connaît, il sait pas mal un peu quelques petites astuces de cuisinier pour pouvoir faire des choses un peu meilleures. Et puis les petites arnaques des cuisiniers à côté, parce que quand on prend une photo, bah c'est pas parce que la photo est alléchante que forcément c'est bon. On en reparlera juste après avec les burgers. Et...
Tu vas nous montrer comment faire un très beau burger, mais pas nécessairement un bon burger, c'est ça?
Exactement, ouais. Alors, voilà, donc tout ça, en fait, il faut pas se fier juste à une photo pour aller dans un restaurant. Également, l'autre chose qui est mise en avant par les professionnels de la restauration, c'est que, en fait, les critiques amateurs font énormément de critiques sur des sujets, en fait, qui sont... pas vraiment de la qualité gustative du produit, mais le fait que le restaurant soit pas très cher ou des choses comme ça, beaucoup qui vont beaucoup jouer. Donc en fait, ce qui est vendu comme étant des vraies critiques sur la qualité de la nourriture deviennent plus des critiques sur l'aspect qualité-prix du restaurant, dirons-nous.
Ben, c'est quand même le genre d'information qu'un consommateur peut rechercher en complément avec la critique professionnelle.
Voilà. Enfin, il faut pas considérer que c'est une substitution au guide culinaire. C'est juste, voilà, un renseignement complémentaire. Mais le guide culinaire restera quand même, de par son professionnalisme, plus utile, enfin donnera des meilleurs renseignements sur la qualité gustative de la cuisine. On peut aussi supposer que le guide culinaire saura plus facilement faire la différence entre un plat qui a été vraiment préparé et un plat congelé qui a juste été décongelé. Alors que un client, moi si je vais au
standard.
Restaurant, je saurais pas, voilà, un client standard, je sais pas si on saurait faire la différence entre quelque chose qui a été congelé et qui du coup est tout prêt et provient d'une boîte. Ou quelque chose qui a vraiment été cuisiné sur place par le commerçant, enfin ouais, par le restaurateur. Voilà. Donc, comme je disais juste là, comment est-ce que tu peux transformer quelque chose qui est pas forcément super bon en quelque chose qui va paraître très alléchant ? T'as sûrement déjà dû aller dans des chaînes de fast-food. Et t'as dû remarquer, comme beaucoup de gens, que les photos sont toujours plus alléchantes que ce que tu reçois en vrai.
Oui, mais je pense qu'il y a des trucages pour faire ces photos-là aussi, non?
Alors exactement, il y a des trucages. Alors on pense en particulier au McDonald's où t'as des superbes photos de burgers et puis toi, quand tu le récupères, t'as un espèce de petit pâté qui ressemble pas à grand-chose. Voilà. On pense aussi, peut-être, certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, à Burger King qui s'est fait condamner il y a quelques années parce qu'il avait des photos qui ressemblaient pas assez au vrai burger, enfin qui étaient trop mises en scène, qui étaient trop belles par rapport au burger.
C'était où ce Burger King-là?
Je crois que c'est tous les restaurants Burger King en 2010 qui avaient dû retirer une photo d'un burger qui était
trop alléchante.
En fait... voilà, c'est ça. En fait, le burger avait été considéré comme considérablement moins gros que celui qui était sur la photo.
Quand même.
Voilà. Donc, astuce pour faire que le burger paraisse plus gros, plus joli. Alors, il y a quelques mois, c'était au mois de... Je mettrai le lien sur notre page Facebook, donc facebook.com/l'émission du matin, si ça vous intéresse. Le lien avec les vidéos YouTube. Alors en fait, McDonald's a posté une vidéo en montrant comment étaient faites ces photos pour burger. Et donc, preuve à l'appui, il y a une employée de McDonald's qui va dans un restaurant McDonald's, qui achète un burger, qui le ramène dans le studio photo et qui prend une photo pour le comparer par rapport à, enfin pour faire la comparaison par rapport au burger qui est fait. Qui va être fait pour la...
Sur la photo promotionnelle.
Voilà, sur la photo promotionnelle. Alors évidemment, le burger qui est fait sur la photo promotionnelle, est fait dans une cuisine un peu spéciale sur le côté du laboratoire photo, pas du tout dans les restaurants de la chaîne. Et alors, à première comparaison, la photo est très différente quand même. Puisque le burger qu'on reçoit ressemble à peu près à rien. Et le burger qu'ils vont prendre en photo ressemble au burger des photos. Donc, comment expliquer toutes ces différences? En fait, première chose toute bête, donc d'après le clip de McDonald's, première chose toute bête, c'est que votre burger, en fait, il est fait avec les ingrédients qui sont posés de façon un peu rapide. Le but, c'est de pouvoir être fait rapidement et manger rapidement. Et en fait, quand tu le manges, comme tu vas croquer dedans, tu vas pouvoir voir à l'intérieur tout ce qu'il y a, alors que sur une photo, comme tu n'as pas croqué dedans, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, il faut que les ingrédients ressortent sur la photo, ce qui fait qu'il y a une différence entre ta photo où tous tes ingrédients vont ressortir et il va paraître très joli, et la réalité où il y a moins besoin que ces ingrédients ressortent en fait, puisque tu vas les sentir en les mangeant et puis tu vas les voir une fois que tu auras croqué. Donc ça, c'est soi-disant leur aspect un petit peu pratique. Alors l'autre chose, c'est qu'évidemment, ça prend beaucoup plus de temps de préparer un burger pour la photo. À peu près, là, sur la photo, ils ont bien, enfin sur le clip, ils ont bien dû mettre 15 minutes, même si y a plein de passages qui sont coupés. Et dernière chose, c'est que ton burger, en fait, comme il va être dans un emballage en carton, l'humidité va se répandre tout autour de l'emballage et il va se compacter en fait petit à petit. Enfin, il va prendre l'humidité et donc le pain va s'affaisser un petit peu. Du coup, c'est pour ça qu'il paraît moins gros. Alors, il y a une autre vidéo qui a été postée sur le même article de journal qui vient du Huffington Post, où c'est une vidéo un petit peu plus ancienne qui explique comment fabriquer, enfin comment faire un bon burger pour une photo. Alors, première chose, tu prends plein de pains différents et tu vas choisir de tous les pains différents celui qui a la forme la plus belle. Ensuite, tu vas rajouter avec de la colle chaque petit grain de sésame un par un de façon à ce qu'il soit bien réparti sur le pain.
Souvent, les burgers n'ont pas de sésame quand on les achète chez McDonald's ou chez Hervey's ou tout ça.
Alors là, en fait, là, ils parlent de burgers qui ont du sésame, donc comme le Big Mac, par exemple.
Oui, oui. Oui.
Et en fait, c'est pas du sésame qui a été mis de façon machine, comme on le voit sur les... Enfin, en vrai. Là, ils sont collés individuellement, chacun. Ensuite, deuxième méthode, pour faire cuire le steak, pour pas qu'il se rétrécisse, tu le fais cuire 20 secondes de chaque côté, et après, tu vas rajouter une espèce de colorant dessus pour qu'il ait la couleur d'un steak bien cuit. Tu vas également passer en fait une espèce de lame chaude sur le burger pour pouvoir faire les traits comme sur un barbecue. Et autre petite astuce, tu vas poser une feuille de carton entre le bas du pain et le
la boulette.
Le steak de viande en fait,
ouais.
De façon à ce que toute l'eau qui coule du burger n'aille pas contaminer le pain, et donc le carton va protéger en fait le pain qui va du coup rester gros. Encore une autre technique, tu peux découper comme tu vois la photo, tu vois pas l'intégralité du burger, tu peux découper un petit triangle dans le burger pour pouvoir l'élargir après, qu'il fasse toute la largeur du pain. Ensuite, les feuilles de salade, tu vas faire pareil qu'avec le pain, tu vas en prendre 150 et tu vas choisir dedans la meilleure, que tu vas agrafer directement dans le burger, donc de façon à ce que la partie, le bout des feuilles ressorte en fait vers l'avant de ta photo, puisque c'est la partie la plus photogénique et c'est aussi celle qui prend le plus de volume, parce qu'il y a ces espèces de vagues qui sont faites par la feuille de laitue, qui va ressortir, du coup, qui va donner du volume. Ensuite, tu vas faire la même chose pour la tomate, que tu vas également agrafer dans le burger, et puis enfin, tu vas finir par la tranche de pain au-dessus. Et les sauces, tu vas les rajouter avec des petites seringues, en fait, de façon à les placer exactement là où il faut, et pouvoir faire un mélange de sauces pour faire très joli sur les photos.
Alors, c'est sûr que ça a l'air appétissant dans la photo, mais un peu moins maintenant que tu nous as dévoilé tous ces trucages.
Voilà, donc en fait, la photo... Le burger qui vous apparaît en photo dans les fast-food paraît peut-être très appétissant, mais moi je vous conseille quand même de manger le vrai burger qu'il vous donne parce que il a de grandes chances d'être meilleur. Voilà, 7h passées de 50 minutes déjà, on va faire une petite pause publicité musicale et on se retrouve juste après, on enchaînera assez rapidement sur les informations RFI. Restez avec nous, à tout de suite sur CHUO.
La grosse femme d'à côté était toujours enceinte. Il paraît qu'elle a eu 12 enfants. C'était au temps où l'on vivait dans la crainte d'un dieu au regard envahissant. La vie était comme les pièces de Michel Tremblay. Tous les flots jouaient à la guerre dans les ruelles. J'en ai parlé avec les aînés du quartier. Ils m'ont raconté comme la vie était belle. à Puerto Plata. Avant le métro, à Puerto Plata. C'était pas chic, c'était pas beau. Maintenant les proprios transforment tout en condo et chassent les prolos à grands coups de marteau. Plus tard, des hippies ont pris le bloc d'à côté. Ils étaient 30 dans deux appartements. Leur commune sentait toujours l'amour et la paix. Ils avaient trois parents pour chaque enfant. La vie était comme les chansons de Beau Dommage et les femmes devenaient libres et infidèles. C'était au temps du macramé, du bricolage et des enfants qui jouaient encore à la marelle. À Puerto Plata, on chantait l'expo. À Puerto Plata, début d'un temps nouveau. Avant que les proprios transforment tout en condo et chassent les granos et les vieux lavabos. La belle fille d'à côté vit seule avec ses chats. Il paraît qu'elle ne veut pas d'enfant. Quand son cœur crie famine et que son lit est froid, elle se fait belle et elle sort prendre un amant. La vie est comme les séries de télévision. Tous les personnages ont plus ou moins 30 ans. Le monde y flash, le monde est fin, le monde est bon, mais le monde vit seul dans chaque appartement. À Puerto Plata, depuis Kyoto, à Puerto Plata, on fait tous du vélo, comme on est écolo, on boycotte McDo, on mange bio, on fume des pépalos, et quand on va au resto, on se plaint des autos et des cris des marmots. Des 4-5-0, des 4-5-0, des 4-5-0.
Voilà, à l'instant, Olivier Laroche avec sa chanson Puerto Plata, sortie issue de l'album Chronique de Puerto Plata, qui vient d'arriver à CHUO. 7h passées de 57 minutes, alors j'avais une dernière petite information à vous annoncer concernant le fast-food et particulièrement McDonald's. Alors, ils viennent de dévoiler leur recette, fin juin apparemment, ils ont dévoilé leur recette du Big Mac. Alors, comment faire un bon Big Mac ? Alors, il y a une vidéo qui est disponible sur YouTube, je vais pas vous la commenter exactement, je vais pas vous la passer non plus puisque la vidéo est en anglais. Mais alors, juste une petite information, comment faire la sauce du Big Mac ? Parce que c'est à peu près ça qui fait tout le Big Mac en fait. Alors en fait, c'est un mélange entre de la mayonnaise, du pickle relish, je sais pas si tu vois ce que c'est ou pas.
Donc la relish au cornichon ?
Exactement. Je savais pas que ça se traduisait en
j'imagine,
français.
J'imagine, je sais pas.
En fait, c'est un condiment qui est fabriqué à partir de cornichons, de la moutarde, du vinaigre de vin blanc, de la poudre d'oignon et d'ail et du paprika. Et voilà la sauce du Big Mac.
Ça, c'est la sauce qu'on met comme un condiment ou c'est pour endurer les boulettes pour les faire cuire?
Non, c'est la sauce du Big Mac qui est au-dessus, là.
OK. Alors, en grande primeur sur Chuo ce matin, la recette pour faire la sauce du Big Mac.
Voilà, exactement. Et puis, si vous cherchez sur YouTube, ça doit être trouvable dans les pages McDonald's. Il y a la recette officielle du Big Mac dévoilée par McDonald's lui-même.
On va peut-être faire les sports rapidement avant de passer aux informations RFI. Alors, au soccer, ne manquez pas le match des étoiles de la MLS ce soir à Philadelphie. Les meilleurs joueurs de la Ligue affronteront le club anglais Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA plus tôt cette année. Parmi les 11 joueurs partants de la MLS, mentionnons la présence de David Beckham, Thierry Henry, Landon Donovan ou encore Dwayne de Rosario, le seul Canadien du lot, ainsi que Jay DeMeritt des Whitecaps de Vancouver. Aucun joueur de l'Impact ni du Toronto FC n'ont été retenus par le public. Le match débute à 20h30. Au baseball, les Blue Jays affrontaient l'Athletics d'Oakland hier à Toronto. Défaite des Blue Jays 7-2. La série se poursuit ce soir à 19h et demain à 12h30. Les Jays entreprendront ensuite une deuxième série à domicile contre les Tigers de Détroit. Au football, c'est demain que se poursuit la sixième saison de la LCF. Les Edmonton Eskimos affrontent les Blue Bombers de Winnipeg à 20h30. Puis vendredi, les Alouettes de Montréal font face aux Argonauts de Toronto dès 19h30. Et puis enfin, n'oublions pas que ce sont les Jeux olympiques d'été qui commencent ce vendredi 27 juillet à Londres. Je rappelle que c'est le triathlonien Simon Whitfield qui a été désigné porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie d'ouverture. Alors, les Jeux de la 30e Olympiade se poursuivront du 27 juillet au 12 août, puis on vous en reparlera tout au long des prochaines semaines.
Voilà, donc les Jeux olympiques commencent donc vendredi à Londres, et ce sera retransmis en direct sur la plupart des chaînes de télévision, enfin sur certaines chaînes de télévision.
En français, vous pourrez regarder les Olympiques sur la chaîne RDS et la chaîne V.
Merci beaucoup Marianne, on va tout de suite passer avec RFI, je ne sais pas si on arrive pile à l'heure, un peu en retard, un peu en avance pour les informations. Si c'est pas parfait, vous m'envoyez désolé. À tout de suite sur CHO, ne quittez pas, on revient dans 10 minutes.
Lui c'est Gilles. Gilles a un problème. Il écoute CHO trop souvent, trop longtemps, en fait tout le temps. À cause de ça, Gilles a perdu sa femme, ses enfants et sa tondeuse. Il a bien essayé d'arrêter d'écouter CHO, mais même le fait que Kovalev ait signé à Ottawa ne l'a pas ébranlé.
Gilles a un problème. Toutes les façons d'écouter CHU sont bonnes pour lui. Il est prêt à dépenser $90 en essence
pour écouter CHU dans son auto. Quand Gilles n'a plus d'essence, Gilles utilise sa radio portable. Quand les batteries de sa radio meurent, Gilles va dans un café internet et l'écoute en ligne.
Gilles a un problème. Il est accro à CHU. Gilles a besoin d'aide. CHU a décidé de le prendre en main. Gilles est maintenant bénévole pour la station de radio. Il a une émission. Il aide à classer les disques compacts. Mais surtout, Gilles fait des publicités. Gilles, c'est... Non... C'est pas moi. Gilles a retrouvé sa femme et ses enfants, mais sa tondeuse, elle,
est toujours portée disparue.
8h passées de 11 minutes, vous nous écoutez toujours sur CHO. L'émission du matin, c'est le début de la deuxième heure. Je suis ici en compagnie de Marianne.
Alors, rebonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui viennent de s'intoniser CHO 89,1.
On va faire une petite météo rapidement et puis on enchaînera tout de suite avec la première chronique de la journée. Alors, météo actuellement, il fait 18 degrés, temps ensoleillé, maximum de la journée de 28 degrés. On aura peut-être quelques nuages qui arriveront dans l'après-midi. Jeudi, ce sera nuageux avec 60% de probabilité d'averse, maximum de 24 degrés. Vendredi, alternance de soleil et de nuages avec 40% de probabilité d'averse, maximum de 25 degrés. Samedi, ce sera nuageux et 60% de probabilité d'averse, maximum de 23 degrés. Dimanche, retour du beau temps ensoleillé, maximum de 27 degrés. Lundi, ensoleillé, maximum de 30 degrés. Et puis mardi, on prévoit peut-être de la pluie, 60% de probabilité et maximum de 28 degrés.
Alors, merci JB pour la météo. On va passer maintenant à la première, la première chronique de la journée. Je voulais faire des suggestions d'événements culinaires, des suggestions de sorties gastronomiques dans la région. Alors, je vais commencer par quelques suggestions qui nous ont été proposées par Patricia, notre directrice adjointe à la programmation ici à CHO. Alors, ce sont toutes sortes d'activités qui ont lieu du côté de l'Outaouais. Tout d'abord, la randonnée gastronomique. Alors, qu'est-ce qu'une randonnée gastronomique? Bien, c'est une promenade sur la rue Eddy où on vous fait découvrir les meilleurs restaurants et les meilleures boutiques, que ce soit la cuisine canadienne-française, la cuisine internationale ou la cuisine émergente du Vieux-Hall. Les randonnées gastronomiques ont lieu depuis le 5 juillet et elles se poursuivent jusqu'au 16 août. C'est un événement qui se déroule à tous les deux jeudis de 10h30 à 13h. Alors, il suffit de se présenter devant le Théâtre de Lille à Hull, au 1 Wellington, à 10h20, le jour de l'excursion. La prochaine randonnée aura lieu le 2 août et les billets coûtent 55 $. Alors, c'est peut-être la belle façon de faire des découvertes du côté de l'Outaouais québécois cet été. Sinon, cet automne, il y a d'autres événements gastronomiques comme le Festival des cultures du monde de Gatineau qui aura lieu du 21 au 23 septembre à la Place de la Cité. La Place de la Cité, c'est à l'intersection du boulevard de la Cité et du boulevard de la Gap. Alors, le Festival des cultures du monde, eh bien, c'est un festival qui vise à vous faire découvrir plus de 30 différentes cultures par l'entremise de l'art, par l'entremise de la danse, mais aussi par la gastronomie. Alors, si vos papilles aiment voyager, si vous aimez de nouvelles saveurs, alors c'est le rendez-vous pour vous. Le Festival des cultures du monde est une présentation du village Molokai, un organisme à but non lucratif de l'Outaouais. Et je répète les dates, le festival se déroule du 21 au 23 septembre à la place de la Cité de Gatineau. Et puis, toujours cet automne, eh bien, il y a le 16e rendez-vous des saveurs qui se tiendra du 12 au 14 octobre au Casino du Lac-Limé. Alors là, c'est vraiment un salon de la gastronomie des vins et des spiritueux. C'est un événement qui rassemble la gastronomie de la région, tous les gastronomes de la région qui veulent goûter à des plats préparés par des restaurants et des chefs locaux ou qui veulent découvrir les produits et les vins de la région. Alors, je vous nomme quelques-uns des participants. Le restaurant du Casino, bien sûr, le restaurant Le Tartuffe, le restaurant du Moulin de Wakefield, les chefs étudiants de la Cité collégiale. Alors, si vous voulez encourager la relève gastronomique de notre région. Et puis aussi, si vous voulez découvrir la bière des Brasseurs du Temps, évidemment, ce ne sont que quelques noms. Il y en a vraiment plusieurs autres. Mais également aussi, au Rendez-vous des saveurs, il y a vraiment des ateliers de cuisine et des démonstrations faites par des chefs invités. C'est un événement très abordable. C'est 10 $ par jour, mais vraiment pour à peine quelques dollars de plus. Donc, pour 15 $ de plus, on peut se procurer le passeport de 3 jours. Et puis, si ça vous intéresse, eh bien, le rendez-vous des saveurs aura lieu au Casino du Lac-Limé du 12 au 14 octobre. Et puis, une dernière suggestion, si vous voulez essayer quelque chose de différent, vous pouvez faire l'essai de la gastronomie moléculaire. Alors, la gastronomie moléculaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, disons que c'est une forme de gastronomie très en vogue par les temps qui courent. C'est une branche de la science des aliments développée par le physicien anglais d'origine hongroise Nicolas Curtis et le physico-chimiste français Hervé Tis, qui vise à étudier les phénomènes culinaires. Donc, au départ, la gastronomie moléculaire, c'est un domaine d'études scientifiques, mais c'est aussi devenu une façon de confectionner des plats de manière originale, pour ne pas dire inusitée, à l'aide de phénomènes chimiques ou biochimiques. Par exemple, oui, tu voulais dire quelque chose?
En fait, ça n'a aucun rapport avec les molécules.
Non, c'est simplement un nom.
C'est juste un nom qu'on a donné pour faire un peu scientifique.
Oui. Ben, je veux dire, il y a une branche d'études de la chimie de l'alimentation, mais quand on va au restaurant de cuisine moléculaire, c'est pas des scientifiques, là. C'est vraiment une branche de la gastronomie.
Voilà. Puis ce qu'ils font, c'est pas de la cuisine sur les molécules vraiment, c'est sur la nourriture entière, en fait.
C'est ça. Donc, un petit exemple, par exemple, on peut fabriquer de la crème glacée en utilisant de l'azote liquide plutôt qu'une sorbetière pour refroidir très rapidement. Alors, on va utiliser toutes sortes d'instruments comme ça, des substances qui auraient davantage leur place dans un laboratoire que dans une cuisine pour préparer les plats. Alors, quelques exemples, l'azote liquide, comme j'ai déjà mentionné, mais aussi le dioxyde de carbone pour faire des bulles, une centrifugeuse pour mélanger, des seringues pour injecter des ingrédients, par exemple, les fameuses sauces de ton Big Mac, comme on mentionnait tout à l'heure. Et puis, on peut même faire de la cuisine à l'ultrason. Alors, c'est vraiment, comme vous pouvez voir, une façon un peu inusitée, originale de préparer les plats.
De la cuisine à l'ultrason. Alors, ça fonctionnera un peu de la même façon que le micro-ondes?
J'imagine. J'ai pas poussé mes recherches de façon très approfondie, mais je trouvais que c'était original. C'était un peu insolite. Alors, il y a aussi, bien sûr, dans la gastronomie moléculaire, on doit également accorder une grande importance à la présentation. Donc, on peut également servir dans des plats, des assiettes avec des ustensiles qui auraient une thématique plus scientifique aussi. Ben alors, on peut vraiment voir que c'est une forme de cuisine qui peut facilement attirer l'attention du public parce que, faut le dire, ça a une dimension assez spectaculaire. Et si vous voulez découvrir la gastronomie moléculaire de la région, faites un tour du côté du restaurant L'Atelier à Ottawa. C'est un restaurant qui a ouvert ses portes en 2008. Le chef et propriétaire Marc Lépine a d'ailleurs remporté le prix Canadian Culinary Champion après avoir remporté l'or lors de la finale de ce concours tenu à Kelowna en février 2012. On vous propose à l'atelier un menu de 12 couverts, donc 12 plats moléculaires. Puis c'est une expérience culinaire qui dure en général près de 3 heures. Alors si vous devez vous assurer d'avoir beaucoup de temps devant vous avant de vous rendre à ce restaurant-là, d'avoir aussi quand même assez faim parce que 12 plats, 12 couverts, ça demande de l'appétit.
Alors c'est peut-être des petits plats.
Ouais, c'est des plats plus petits, mais si vous êtes comme moi, puis même un repas à 3 couverts, c'est un peu trop pour vous. C'est peut-être pas le restaurant. Par contre, si vous êtes curieux, puis vous avez un peu de temps devant vous, puis que vous...
Sûrement un petit peu d'argent aussi.
Un peu d'argent aussi, parce que c'est quand même assez cher. Ça coûte 110 $ pour cet ensemble de 12 couverts. Et pour 60 $ de plus, on peut goûter à 9 ou 10 vins qui accompagnent les différents plats. Alors, pour la cuisine moléculaire, eh bien, l'incontournable dans la région, c'est le restaurant L'Atelier. C'est du côté d'Ottawa. C'est situé au 540 rue Rochester. Et c'est probablement mieux de réserver d'avance aussi, si on veut faire un petit tour.
Merci beaucoup, Marianne. On se retrouve tout de suite après cette petite pause musicale avec Caracol et la chanson « Quelque part ».
Oui, c'est la chanson tirée de son album « Blanc mercredi ». Et puis, si c'est une chanson qui vous semble un peu familière, c'est parce que c'est la chanson thème également du film « Starbuck ».
Voilà, donc tout de suite sur CHUO, ne quittez pas, restez avec nous. Voilà, alors on parle de gastronomie toujours sur CHUO 89.1 FM. Vous nous écoutez dans la région d'Ottawa sur cette fréquence ou alors sur le net CHUO.fm. Et parlant de gastronomie, étant français, je ne pouvais pas ne pas du tout parler de gastronomie française. Et alors ce sera pas que français, ce sera un petit peu plus européen. Je voulais vous parler de la cuisine méditerranéenne et du paradoxe français. Déjà entendu parler de ce nom ou pas?
Je sais que les Français, vous êtes des gens très paradoxaux, mais j'ai jamais entendu parler du paradoxe français en question.
Alors en fait, le paradoxe français, c'est un terme qui a été inventé à la fin des années 1980 et qui permettait d'expliquer certains chiffres un petit peu bizarres. Alors, concernant ces chiffres bizarres, alors il faut en fait regarder l'espérance de vie dans les différents pays du monde. Et alors, comme vous le savez... Peut-être le pays dans lequel on a la meilleure espérance de vie, c'est, Marianne, est-ce que tu as une idée?
Je dirais, là, comme ça, la Finlande, la Norvège, un pays scandinave?
Non, le pays dans lequel on a la meilleure espérance de vie à la naissance, c'est le Japon.
Ah!
Où la moyenne est de 82,6 ans, donc d'après la...
Pour les femmes ou pour les hommes?
Pour, en général, en global. Général. Donc c'est d'après une liste qui a été faite par les Nations Unies entre 2005 et 2010 et avec une espérance de vie de 79 ans pour les hommes et 86 ans pour les femmes. Donc ensuite, si on continue dans les gros pays, donc on a la Suisse qui viendrait juste après, Israël, l'Islande, donc là un pays vraiment du Nord, l'Australie, Singapour, l'Espagne et la Suède qui viendraient ensuite à égalité. Et si on descend encore un petit peu plus bas, la France à égalité avec le Canada, avec 80,7 ans de moyenne. Et par contre, une différence assez notable entre les deux pays. En fait, en France, si t'es une femme, tu vivras plus longtemps qu'au Canada. Mais si t'es un homme, tu vivras plus longtemps au Canada qu'en Espagne, qu'en France, pardon, en moyenne.
Alors, t'es sûr que tu veux retourner en France?
Alors, si on continue comme ça sur les pays, on va... On continue, on a l'Italie et puis ensuite viennent l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Pays-Bas. Alors globalement, si on regarde, en fait, on a quand même des pays méditerranéens qui arrivent assez haut dans les classements. Et donc la question, c'est un peu de se demander pourquoi est-ce qu'on a une telle espérance de vie. Alors il y a autre chose qu'il faut voir également dans ce fameux paradoxe français, c'est qu'en fait, il y a une énorme différence entre le nord de la France et le sud de la France. Avec une espérance de vie qui peut... alors, il n'y a pas trop de chiffres officiels dessus, mais l'espérance de vie apparemment peut varier de 5 à 10 ans entre le nord de la France et le sud de la France. Donc les gens vivraient plus vieux dans le sud de la France, globalement. Et autre étude qui a été faite, c'est le nombre d'infarctus pour 100 000 habitants, qui est en fait 4 fois moins élevé dans le sud de la France qu'aux États-Unis.
Quand même.
Alors voilà, alors la question est de savoir pourquoi...
Mais il faudrait peut-être faire la différence entre le sud et le nord des États-Unis aussi.
Ça, c'est peut-être possible, mais... Pourquoi les gens sont plus gros dans le sud des États-Unis que dans le nord des États-Unis?
Non, c'est juste que, comme la France, les États-Unis sont un pays culturellement très, très varié, d'est en ouest, puis du nord au sud, donc...
Voilà, alors ça, en fait, ces études, c'est pour... Les 4 fois moins, c'est pour l'ensemble de la France, en fait. Et alors, si on regarde sur d'autres pays, en fait, on se rend compte qu'en Crète, on est encore 2 fois à 3 fois moins qu'en France d'infarctus pour 100 000 habitants. Et donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe entre ces différents pays pour qu'il y ait une différence aussi importante du nombre d'infarctus. Et une des raisons, c'est l'alimentation, en fait. Enfin, une raison importante, c'est l'alimentation. Alors pourtant, l'alimentation du sud de la France et même d'une bonne partie du pourtour méditerranéen, qu'on appelle le régime méditerranéen, je sais pas si tu vois un petit peu le type de nourriture que c'est pas forcément très pauvre en gras, enfin, ça paraît pas comme ça beaucoup mieux que la nourriture américaine.
Si tu me dis cuisine méditerranéenne, moi je pense à des vins, à des plats à base d'olive ou d'huile d'olive, des fromages méditerranéen. Donc, je pense à des choses vraiment très agréables à manger, mais peut-être pas nécessairement très bonnes si on veut garder la ligne.
Voilà, exactement. Alors, tu as parlé là de des choses les plus importantes. Alors, le vin, évidemment, fait partie de des sujets qui ont été pas mal étudiés parce que, évidemment, il y a toute une industrie du vin derrière et donc on suppose qu'il y a un certain nombre de financements pour essayer de conserver les vins français, les vins espagnols, les vins italiens qui sont très renommés sur toute la planète. Et surtout le vin rouge, en fait. Et donc, on essaye de lui trouver des vertus à chaque fois. Et donc les études sont un peu contradictoires, mais globalement, avec un à deux verres par jour, on pourrait avoir une amélioration de la santé, mais avec une consommation modérée. En fait, dès qu'on passe sur une consommation un petit peu importante, on perd tous les bénéfices. Alors ça fait partie des choses qui font beaucoup parler, mais il n'y a pas que ça, en fait. Donc t'as parlé aussi de l'huile d'olive. Et donc l'huile d'olive, bah forcément c'est un gras, c'est bizarre de penser que ça pourrait ça permettrait d'être en meilleure santé. Et en fait, il faut voir que c'est une matière grasse végétale, contrairement aux matières grasses animales comme par exemple. Donc en fait, c'est pas du tout la même chose si tu manges du lard et si tu manges de l'huile d'olive par exemple.
Déjà, c'est plus agréable de manger de l'huile d'olive.
Oui, mais
juste comme ça.
Moi, je mangerais pas une cuillère d'huile d'olive, par contre.
Non. Mais tu sais, par des fois, là, sur des sauces à salade ou de la mouillette pour le pain, des tartinades, des choses comme ça.
Voilà, tu peux avoir beaucoup de recettes qui sont faites à base d'huile d'olive. Et alors, en fait, l'huile d'olive permettrait d'avoir, d'avoir en fait des meilleurs gras qui viennent, un meilleur cholestérol dans le corps que les matières grasses animales. Et alors, l'autre. En fait, les autres explications, ça vient surtout de quand tu regardes le type d'alimentation globalement, comme c'est des pays qui sont très très bien placés en termes de climat. En fait, il y a énormément de fruits et légumes, donc les gens mangent beaucoup de fruits et légumes. Ils mangent aussi beaucoup de céréales, mais des céréales non raffinées, en fait.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, par exemple, du pain, mais du pain juste constitué de farine et d'eau avec sans additifs à côté, ou alors du riz mais directement, enfin sans qu'il soit en gros
il est pas traité commercialement, ou il est pas traité avec des additifs, c'est ça?
Il reste dans son état naturel. Okay. C'est-à-dire que tu vas manger du pain tu vas manger du pain issu de la vraie farine et non pas un mélange d'amidon et de choses raffinées au second, troisième degré,
okay, ouais.
Ou des huiles de céréales, des choses comme ça. Et on remarque une assez grosse consommation de vin. Et en dessous, on passe à des niveaux beaucoup plus inférieurs, en fait, de viande et de poisson qui sont consommés. Donc également une consommation assez importante de poisson par rapport à la moyenne mondiale. Et une consommation très faible de viande, et en particulier de viande rouge, par rapport au régime régime américain, où le hamburger fait un peu la loi.
Est-ce que c'est une question uniquement de goût, ou c'est une question d'espace aussi pour les pâturages?
Alors ça, je n'en ai aucune idée. C'est une question de tradition aussi, je pense.
Parce qu'une des raisons pour laquelle on mange autant de bœuf ici au Canada, c'est parce qu'on a une très grosse industrie bovine, qui s'explique en partie par l'espace qu'on a pour élever des bœufs.
Voilà, et alors contrairement au régime du sud-ouest de la France qui est un peu le paradoxe français, où en fait il y a beaucoup plus une tradition de volaille, avec on en a parlé pas mal de fois ces derniers temps, avec le foie gras par exemple, qui est de la région là-bas, et donc qui fait que il y a énormément de d'oies et de canards qui sont et puis de poulets et de choses comme ça aussi, mais qui sont disponibles pour la consommation, et qui fait qu'il y a une grosse consommation de volaille qui serait meilleure pour la santé que des viandes rouges. Et donc voilà le fameux régime ce fameux régime qui permettrait de réduire le taux d'infarctus et d'avoir une meilleure espérance de vie. Donc c'est consommation accrue de fruits et légumes et de céréales entre guillemets brutes. Donc les pâtes ça rentre dedans, mais pas de choses trop raffinées, et consommation moins grande de volaille, et puis encore moins grande de de viande rouge et plus de poisson. Donc on remarquera aussi que les Japonais, qui sont numéro 1 dans l'espérance de vie, mangent beaucoup de poisson.
Oui, ils ont une alimentation presque entièrement basée sur le poisson.
Voilà, basée sur le poisson et puis sur le riz également. Donc peut-être que manger des céréales non raffinées et du poisson, ça permettrait de vivre le plus longtemps possible.
Voilà.
Voilà, c'était tout pour ma chronique sur le régime méditerranéen, à moins que tu aies envie d'en savoir un petit peu plus sur ce régime, qui est en fait un terme très très vaste en fait. Et alors, oui, juste une petite précision, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, on parle de régime comme d'un régime alimentaire, c'est-à-dire comme type de vivre alimentaire et non pas comme façon de perdre du poids. N'essayez pas le régime méditerranéen pour perdre du poids, vous risqueriez de ne pas y arriver. Puisqu'il y a un taux quand même dans le pourtour méditerranéen, il y a un taux de surpoids et d'obésité qui est quand même assez important.
Alors, un taux de surpoids important, mais vous vivez quand même plus longtemps que la moyenne des Européens.
Exactement, mais c'est pour ça un peu le paradoxe. Mais il faut pas penser qu'en mangeant style méditerranéen, vous allez pouvoir maigrir comme ça facilement.
Non, mais c'est surtout une cuisine qu'on mange parce que c'est excellent. Ça. Moi, tu m'as mis en appétit tout le long de ta chronique.
Ça y est, tu vois la petite tapenade à manger.
Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas juste l'excellente nourriture, c'est en plus le climat, le bord de la mer, la chaleur, tout ça. Donc, toutes des choses auxquelles on pense. En tout cas, moi, je pense quand je suis en train de déneiger mon entrée au mois de janvier.
Alors, la chaleur, en ce moment, il y en a quand même au Canada.
Il y en a quand même ici en ce moment, mais alors je me plains pas, mais au mois de janvier, c'est une autre histoire.
Voilà, mais bon, il y a aussi le fait que le Canada arrive au même niveau que la France en termes d'espérance de vie et dans les 10 premiers pays du monde, c'est peut-être aussi le signe que la nourriture canadienne n'est pas si mauvaise que ça. Alors peut-être que c'est peut-être lié au fait qu'il y a quand même pas mal de fruits et légumes, en tout cas dans la région, en Ontario et puis au Québec. Et ouais. Ça joue peut-être. Alors peut-être que les fruits et légumes sont une grosse part aussi de la...
Ben, c'est sûr qu'on a la chance l'été de manger des fruits et des légumes... qui poussent ici au Canada, qui poussent par exemple des pêches du sud de l'Ontario, des bleuets du lac Saint-Jean, des fraises, des framboises locales, des pommes locales, mais c'est sûr qu'au mois de pendant les mois d'hiver, on a moins cette chance-là, on doit tout importer, nos fruits et légumes.
Mais il y a la poutine aussi.
Ouais, mais ça c'est pas super bon ni pour la santé ni pour la figure.
Alors, 8h36 minutes, on va faire une petite pause publicitaire et puis on se retrouve juste après pour ta dernière chronique, Marianne.
Oui, c'est ça, une chronique qui va vous permettre d'en savoir plus. On va continuer de parler de la France, mais de la France de l'Ancien Régime cette fois-ci.
Voilà, alors ne nous quittez pas, à tout de suite sur CHUO.
Je l'avais vissé dans l'âme, l'existence possible d'une vie rêvée, d'avoir trop regardé peut-être autour du phare du four, monter les vagues et les larmes qui menacent, qui entourent, qui embrassent, sans jamais l'engloutir, le phare fêtu de pierre. Et qui mystérieusement les part. Par pure bonne volonté et à rien de mépris, dans l'écume en furie, moi je voyais des femmes, des éclats frais de rire pour ma nuque en brasier, des bonheurs fugitifs comme ils passent dans la rue, la nuit, l'été, volets fermés, presque des cris d'enfants tellement inoffensifs, où se désirent d'elles du soir, le gazouillis des grands espoirs, le bruit de l'intense, le dérisoire volé au vif de l'existence, juste avant le prochain déboire. Je l'avais l'apparition possible d'une femme adorée, Dans la magie des jupes, elles ondulaient, moi j'adulais. Les signes qui me prenaient pour cible, éternel cœur crevé, volontaire de flèches empoisonnées, et d'autres plaies encore plus profondes et plus larges, qui laissent voir les tripes et des mondes parallèles où les choses ont une voix, et même parfois des ailes, où tout va sans effort vers cette étrange osmose qui en a fait plus d'un sombrer dans la cirrhose. Moi, je veux l'insolence sereine des revenus de tout, du marin à l'œil pâle au regard d'horizon, la peau couleur de roc, les rides du sourire en rigole pour les larmes. Il sait que par grand vent, la verticale n'est pas l'équilibre, le sobre n'est pas le lucide, et le visible est toujours incertain. D'ici, l'indicible n'est jamais très loin.
Voilà, à l'instant, c'était Daran avec la chanson Phare du Four, tirée de son album éponyme, je pense. Non, L'homme dont les bras sont des branches.
L'homme dont les bras sont des branches, c'est ça ?
Exactement. Donc, Marianne, tu voulais nous parler de la nourriture, de la cuisine de l'Ancien Régime.
Oui, ben après vous avoir parlé un peu de la cuisine au 19e siècle hier avec le grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas, puis après aussi avoir écouté la chronique de Dukakis sur le slow food, alors ce retour au patrimoine gastronomique, à la tradition gastronomique ancestrale, si on veut. Mais moi, j'ai eu envie de vous parler un peu de l'histoire de l'alimentation, plus particulièrement de l'histoire de l'alimentation sous l'Ancien Régime français, notamment au 17e et au 18e siècle. Alors, j'ai fait un peu de recherche et les informations que je vous donne sont tirées d'un article scientifique de Jean-Louis Flandrin intitulé « La distinction par le goût ». C'est paru au Seuil en 1999. C'est tiré de l'ouvrage « Histoire de la vie privée, tome 3, de la Renaissance aux Lumières ». Alors, c'est un article qui recense et analyse l'évolution du goût alimentaire au 17e et au 18e siècle en France. Et qui parle aussi de la place du goût dans les relations sociales. Alors, on y apprend toutes sortes de choses intéressantes sur l'alimentation des gens, mais aussi sur ce qui, pour des raisons sociales, était considéré comme bon, voire gastronomique, et ce qui ne l'était pas. Alors, on peut vraiment voir ce qui était réservé à l'élite et ce qu'on pouvait délaisser au tiers-état, c'est-à-dire aux paysans. Et vous allez voir, c'est quand même assez différent de nos propres habitudes alimentaires aujourd'hui. Alors, on va commencer avec les viandes. Alors, au Moyen-Âge, chez les nobles, on se nourrissait presque exclusivement de volailles et de viandes de gibier. Notamment le gibier parce que la chasse, comme on le rappelle, ben, c'est le privilège et le loisir par excellence des nobles. Alors, manger du gibier, ben, c'est une façon de se démarquer des paysans, de se démarquer du tiers-état qui, eux, vont se nourrir de viande de boucherie. Donc, fait intéressant, les viandes de boucherie et surtout le bœuf ne sont alors mangés que dans les bouillons et sont surtout mangés par les paysans. Et puis, au 17e et au 18e siècle, mais les nobles, ils vont changer un peu leurs habitudes alimentaires. Ils vont manger de la viande de boucherie. Mais là, la différence entre les nobles et le tiers-état va résider cette fois-ci dans le choix des morceaux et des coupes de viande. Alors, les nobles et les bourgeois vont acheter les meilleures coupes et les autres vont devoir se contenter de ce qu'on appelle les bas morceaux. Et puis, au cours d'un même repas aussi, ben, on va réserver les meilleurs morceaux de viande au maître de la maison ou encore à son invité de marque, s'il y a un invité de marque qui dîne avec lui ce soir-là. Et puis ensuite, on va donner les morceaux qui vont être distribués de manière hiérarchique en fonction de leur qualité. Donc, vous pouvez voir, je pense que ça passerait vraiment mal aujourd'hui de faire une espèce de distinction comme ça. Vous invitez des gens à souper chez vous et puis vous leur donnez des morceaux de viande selon ce que vous jugez être leur importance. Donc, on peut voir que manger, ça reste quand même un acte très social, une façon de se démarquer au 17e et au 18e siècle. Alors, on a parlé des viandes de boucherie, on a parlé du bœuf qu'on dédaignait chez les nobles un peu jusqu'à la fin, jusqu'au début du 17e siècle. Le bœuf qu'on mangeait pas mal juste en bouillon, qu'on va commencer à manger, les coupes de viande au 17e siècle. Eh bien, le porc, lui, va peu à peu disparaître des grands marchés et des pourvoiries où s'approvisionnent les grands seigneurs. Alors, on va privilégier le bœuf, mais le porc va disparaître. On va juger que le porc, c'est une viande impure, vulgaire, grossière. Puis du porc, on va ne conserver qu'une seule chose. Est-ce que tu peux deviner ce que c'est?
Dans le porc, on va conserver qu'une seule chose?
Ouais.
La peau, peut-être?
Non, en fait, c'est le lard, parce que le lard, c'est indispensable pour graisser les aliments et faire des sauces. Alors, on a déjà découvert le beurre, on a déjà découvert des recettes faites à base de beurre, mais vraiment, c'est le lard qu'on va privilégier pour graisser les aliments et pour faire des sauces. Et puis, en ce qui a trait à la cuisson comme telle de la viande, alors là, on va favoriser, du côté des nobles au 17e siècle, la cuisson séparée des aliments. Donc, on va faire cuire la viande d'un côté, les légumes de l'autre, puis on va assembler le tout après, de façon à ce que chaque aliment conserve son goût propre, sa saveur propre. Donc, pas question de faire un ragoût, un pot-au-feu fourre-tout, où ce que la viande goûte les légumes et les légumes goûtent la viande. Non, non, c'est vraiment très important de préserver les différents goûts des aliments distincts. Puis, en termes de cuisson, on va aussi préférer la viande cuite juste à point. Puis, on va vraiment préciser que la viande et les aliments devraient être cuits le moins longtemps possible, parce qu'on veut qu'ils conservent leur goût. Puis aussi, on veut qu'ils conservent leur côté un peu croustillant du côté des légumes. Du côté des épices, alors on va vraiment connaître un recul marqué des épices au 17e et au 18e siècle par les cuisiniers français qui vont vraiment réduire leur quantité de poivre, de clous de girofle et de muscade et qui vont vraiment complètement abandonner les épices comme le safran, le gingembre, la cannelle. Ça, encore une fois, ben, c'est une façon de s'éloigner de la cuisine européenne du 14e, 15e et 16e siècle qui utilisait beaucoup les épices comme marque de richesse et d'aristocratie. Alors, on se rappelle que les épices, c'est quand même, c'était considéré comme une grande richesse, quelque chose qui permet de conserver la viande, quelque chose qui permet d'impressionner les gens parce que c'est exotique, ça vient d'Asie. On sait qu'il y a eu toutes sortes de conquêtes maritimes, de guerres pour tenter de contrôler le commerce des épices en Méditerranée, l'accès à l'Asie pour ça, mais...
Mais le nouveau continent a été découvert grâce à ça, en partie.
Oui, oui, tout à fait. Donc, vraiment, on va vraiment... Les épices, ça va vraiment être la marque de commerce, si on veut, du 14e, 15e, 16e siècle. Mais à partir du 17e, 18e, mais on va délaisser les épices exotiques, notamment. Puis, pour les cuisiniers, ben, c'est une façon aussi de dénoncer les pratiques qui dénaturent le bon goût des aliments. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est bon le safran, mais on ne doit pas en mettre une tonne non plus juste pour épater la galerie. On veut conserver le goût naturel de l'aliment. Alors, après avoir abandonné les épices exotiques, on va vraiment se remettre à favoriser les herbes locales comme le basilic, le thym, le laurier, la ciboulette et surtout le persil. Le peuple, lui, comme j'ai dit, il va se mettre à partir du 17e ou du 18e siècle à utiliser les épices tout simplement pour améliorer le goût des aliments, notamment le goût de la viande. Parce que, comme j'ai dit, bien, dans la mesure où le peuple il était capable de s'acheter les meilleurs morceaux de viande, les meilleurs aliments, les meilleures coupes, bien, il va devoir vraiment compenser en assaisonnant les aliments pour améliorer leur goût. La présentation maintenant. Alors, la présentation, c'est vraiment, vraiment important à partir du 17e siècle. C'est vraiment à partir du 17e siècle et non du Moyen Âge, comme on veut une certaine image populaire, que l'on va se mettre à surcharger les tables de victuailles lors des banquets avec des animaux servis dans toute leur longueur, des pyramides de fruits et de desserts. On va vraiment commencer à faire dans la démesure, dans une présentation presque obscène de victuailles et de nourriture. Je vous parlais hier d'un repas recensé par Alexandre Dumas dans son dictionnaire de cuisine. C'était un banquet servi à Louis XIII dont le menu faisait 4 pages. Et là, 4 pages, je dis pas 4 pages avec des descriptions, là. C'était vraiment une énumération des plats qui avaient été servis à Louis XIII. Ça faisait 4 pages. Et puis, ça, c'était recensé par Alexandre Dumas dans son dictionnaire de cuisine. Mais l'article dont je vous parle aujourd'hui, ben l'auteur a pris la peine... L'auteur va nous parler d'un repas semblable servi à Louis XIII en 1634 et un autre servi à Louis XIV en 1687 qui vraiment le donne dans cette démesure de dans cette présentation grandiose avec toutes les pyramides de fruits, de desserts, avec toutes les viandes qu'on présente sur les tables. Alors je vous mets au défi d'essayer de visualiser toute cette nourriture là. Puis de vous faire à l'idée de cette présentation-là. Mais le service d'aliments n'était pas le même qu'aujourd'hui. Alors, on n'allait pas servir les aliments de la même façon. Aujourd'hui, si vous allez au restaurant, si vous allez dans une fête, dans un mariage, on va servir chaque convive en même temps le même plat. Donc, si on fait un repas à 7 couverts, ben chaque convive va manger 7 couverts et puis chaque convive va avoir les 7 mêmes couverts. Mais au 17e et au 18e siècle, on servait plusieurs couverts simultanément, donc un peu comme un buffet. Donc, vous pouvez visualiser un peu comme un buffet. Les convives avaient alors le choix des plats et de la quantité. Donc, ils pouvaient vraiment se servir de toute cette nourriture qui était sur la table, même si généralement on se contentait des plats qui étaient près de notre assiette. Ça ne veut pas dire que les gens mangeaient plus, c'est juste qu'ils avaient plus de choix.
En fait, ouais, c'est vraiment un buffet, quoi.
Ouais, c'est vraiment un buffet, mais un buffet.
Sauf que c'est un buffet assis à table et tu manges plutôt ce qui est devant toi parce que.
Tu veux pas.
Ça doit être gênant un peu de se déplacer tout autour de la table pour aller chercher.
Ouais, pour aller chercher un petit morceau de fromage, là.
Ah, oh, ben, il y a quelque chose qui est caché juste derrière le roi. Excusez-moi, monsieur le roi, je.
Donc, enfin, voilà. On avait justement toute cette nourriture-là, mais ça veut pas dire que les gens mangeaient de tout, ça veut juste dire qu'ils avaient plus de choix. Et puis, les cuisiniers de l'Ancien Régime vont abandonner différentes techniques de présentation par rapport au Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, je sais pas si on se servait un peu de tous ces oiseaux comme les cygnes, les cigognes, les hérons, les paons qu'on allait disposer sur les tables. Des oiseaux dont on se servait davantage pour décorer la table avec leurs belles plumes exotiques que nécessairement pour le goût, la qualité de leur viande. Évidemment, c'est un jugement de valeur parce qu'aujourd'hui, on aurait tendance à croire que ces viandes-là sont moins bonnes. Mais comme on en mange moins, on peut pas vraiment juger non plus. Mais on a l'impression que tous ces oiseaux-là avaient davantage une fonction décorative qu'une fonction alimentaire. Mais au 17e, 18e siècle, on va vraiment commencer à abandonner cette présentation d'oiseaux exotiques-là, notamment parce que c'est beaucoup de travail de prélever la chair sans endommager les peaux, sans endommager l'aspect visuel de la présentation. Les couleurs aussi étaient très, très, très importantes au Moyen-Âge. On se servait souvent des aliments pour leur aspect visuel, pour leur belle couleur, alors qu'au 16e et au 18e siècle, on va d'abord se soucier de la valeur gastronomique des aliments. Donc, il y a des aliments comme ça qui ont des très belles couleurs, mais tu sais, je veux dire, si on n'aime pas ça les betteraves ou si on n'aime pas ça les carottes, ben on va pas quand même se forcer à les manger non plus, juste parce qu'ils ont des belles couleurs. Puis ça, c'est juste une petite idée de l'évolution de la gastronomie, de l'évolution du goût, de l'évolution des manières de table, des relations sociales à table qu'on peut observer à partir du Moyen-Âge, mais aussi au 17e et au 18e siècle, et puis qu'on peut comparer, si on veut, avec nos habitudes aujourd'hui. Dans l'article de... Dans l'article de Jean-Louis Flandrin, il y a aussi toute une section sur l'évolution des manières de table et sur l'évolution de la notion même du goût au 17e et au 18e siècle par rapport au Moyen-Âge. Mais je ne l'aborderai pas aujourd'hui, faute de temps. Mais c'est vraiment intéressant. Je vous conseille fortement. Si vous voulez en savoir plus sur l'évolution de l'histoire de la gastronomie et des habitudes alimentaires, c'est un article qui est vraiment fascinant. Donc, je vous rappelle le titre. Ça s'appelle « La distinction par le goût ». C'est un article de Jean-Louis Flandrin. C'est paru dans le livre « Histoire de la vie privée, tome 3, de la Renaissance aux Lumières ». Et c'est paru au Seuil en 1999.
Merci beaucoup, Marianne. Cela concluait donc notre semaine sur la gastronomie. Il est 8h passé de 55 minutes. Je te vois regarder l'horloge. On va devoir bientôt mettre un terme à notre émission pour cette semaine. Le thème de la semaine prochaine, est-ce qu'on l'a défini?
On n'a pas décidé encore, on devrait vous l'annoncer sur notre page Facebook sous peu.
Alors la page Facebook, je rappelle, c'est facebook.com/l'émission du matin. Vous pouvez aussi revoir les balados de l'émission du mercredi, disponibles sur lmdm.podomatic.com ou alors sur iTunes, vous tapez tout simplement l'émission du matin.
Et puis pour ramener rapidement à notre page Facebook, si vous voulez nous proposer un thème, nous proposer une mission, ou si vous avez des commentaires ou des suggestions de musique que vous aimeriez qu'on diffuse, n'hésitez pas à nous en faire part sur notre page Facebook.
Voilà, il nous reste donc 4 petites minutes pour finir l'antenne. Moi, c'était ma dernière émission à CHUO aujourd'hui, en tout cas dernière émission de cet été. Je sais pas, peut-être qu'un jour je reviendrai à Ottawa pour continuer des émissions à CHUO. En tout cas, pour cette saison, c'est fini malheureusement. J'ai passé un très très bon moment ici derrière les micros de CHUO. Donc je remercie tous les gens qui ont permis que ce soit possible. Après Anne-Sophia qui est partie, maintenant Denis qui est parti, et puis maintenant ça va être moi. J'espère qu'il y aura encore du monde, toi Marianne et puis d'autres gens pour maintenir l'émission du mercredi. Et je vous écouterai.
Ah ben ça c'est gentil, en balado diffusion et puis sur le web.
Bah même, ouais, je pourrais vous écouter en direct parce qu'en France ça correspond à l'après-midi.
Si t'es capable de capter notre antenne sur le web en fait.
Sur le web, ouais, on peut l'écouter depuis iTunes directement dans Radio College University et on tombe dessus.
Ou en allant sur chuo.fm aussi.
Ou en allant sur chuo.fm, ouais, exactement. Voilà, et ben voilà, alors avant de finir, on va... peut-être pas se quitter sur une petite note un peu triste comme ça, comme ce que je viens de faire là. Enfin, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je veux vous rendre joyeux, heureux de vivre. Peut-être un petit peu moins enclin à aller au McDo après ce que vous avez appris aujourd'hui sur la façon dont sont faits les photos des hamburgers, qui sont du coup beaucoup moins appétissants que les vrais. Alors, pour finir, petite page météo. Il fait actuellement 18 degrés, temps ensoleillé à Ottawa. Pour la journée, on aura un maximum de 28 degrés avec quelques nuages qui vont arriver dans l'après-midi. Jeudi, demain, malheureusement, nuageux avec 60% de probabilité d'averse, maximum de 24 degrés. Vendredi, retour du soleil, mais quand même 40% de probabilité d'averse, maximum de 25 degrés. Samedi, il devrait pleuvoir avec 60% de probabilité, maximum de 23 degrés. Dimanche, beau temps, soleil toute la journée, maximum de 27 degrés. Lundi, maximum de 30 degrés. Et puis mardi, retour de la pluie avec 60% de probabilité d'averse. Marianne, si tu veux finir avec la redite des sports,
alors...
c'est tout de suite, juste après ce petit jingle.
Alors, au soccer, ne manquez pas le match des étoiles de la MLS ce soir à Philadelphie. Les meilleurs joueurs de la Ligue affronteront le club anglais Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA un peu plus tôt cette année. Parmi les 11 joueurs partant de la MLS, mentionnons la présence de David Beckham, Thierry Henry, Landon Donovan ou encore Dwayne De Rosario, le seul Canadien du lot, ainsi que Jay DeMeritt des Whitecaps de Vancouver. Aucun joueur de l'Impact ni du Toronto FC n'ont été retenus par le public. Le match débute à 20h30. Au baseball, les Blue Jays affrontaient les Oakland A's à Toronto hier soir. Défaite pour les Blue Jays de 7-2. La série se poursuit ce soir à 19h et demain à 12h30. Les Jays entreprendront ensuite une deuxième série à domicile contre les Tigers de Détroit. Au football, c'est demain que se poursuit la 6e semaine de la LCF. Les Edmonton Eskimos affronteront les Blue Bombers de Winnipeg à 20h30. Et puis vendredi, ce sera les Alouettes de Montréal qui feront face aux Argonauts de Toronto dès 19h30. Et puis enfin, n'oublions pas que ce sont les Jeux olympiques d'été qui commencent ce vendredi 27 juillet à Londres. Je rappelle que c'est le triathlonien Simon Whitfield qui a été désigné porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie d'ouverture. Les Jeux de la 30e Olympiade se poursuivront jusqu'au 12 août et puis on vous en reparlera tout au long des prochaines semaines.
Merci beaucoup Marianne. C'est l'heure de conclure notre émission. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les détails de l'émission sur la page Facebook, réécouter cette émission en balado comme on vient de le dire. Et puis l'émission du matin, ça reprend la semaine prochaine à partir de lundi. Le thème n'a pas encore été défini, mais faites un tour sur internet et vous en saurez très bientôt beaucoup plus. Marianne, merci beaucoup.
Ben merci à toi JB, puis je dirais en terminant que tu vas beaucoup nous manquer ici à CHUO FM.
Ben non, ça continuera toujours l'émission du matin. Allez, à la semaine prochaine.